Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment de louange juste avant, avec ces magnifiques chants centrés sur la croix, sur Jésus-Christ, ce qui fait en somme notre vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de France, et plus particulièrement l'histoire des rois de France. Donc là, si j'affiche ce tableau, peut-être ça va vous rappeler des choses. Alors peut-être c'est écrit un peu petit, mais on a les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, vous savez, Clovis, Charlemagne, etc. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous avez dans chaque colonne, vous avez en fait des dynasties. En fait, c'était des gens de la même famille qui se passaient en fait le trône au sein même de la famille. Et il arrivait que parfois il y avait des crises qui fait que on passait d'une famille à une autre. Et l'exemple que nous avons, c'est par exemple entre les Valois et les Bourbons, donc entre Henri III et Henri IV, ça s'appelle tous les deux Henri, mais ils ne sont pas de la même famille, et on est passé d'une famille à une autre, d'une dynastie à une autre. Et ça, c'est ce qu'on voit particulièrement dans l'histoire de France, et c'est ce que nous voyons aussi dans la Bible. Parce qu'en fait, dans la Bible, quand il y a le Royaume du Nord et le Royaume du Sud, le Royaume du Nord Israël, avec ce schisme qu'il y a eu, le Royaume du Nord, en fait, c'est plusieurs familles qui se succèdent. Vous vous souvenez, il y a Jéroboam qui était le serviteur de Salomon, et puis après voilà, il y a eu ses descendants, mais après il y en a, ils sont fait tuer par d'autres personnes qui ont pris leur place, etc. Alors que dans le sud, le royaume de Juda, c'était différent. Dans le sud, c'était toujours la dynastie, on va dire la royauté de David, en fait, les descendants du roi David, qui étaient certains plus ou moins bons, voilà. Mais avant cela, je propose aujourd'hui de voir comment Dieu a orchestré un autre changement de roi vers environ 1000 avant Jésus-Christ, ok ? Et notamment, qui sera le roi après le roi Saül et comment va se faire cette transition entre ces deux rois. Mais d'abord, quelques éléments de contexte. Le roi Saül, donc, qui a été nommé roi vers à peu près 1000 avant Jésus-Christ, a fait deux erreurs fatales. La première, on va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 13. En fait, Saül fait la guerre dans une ville qui s'appelle Gilgal. Il est face à une armée de Philistins. Et il devait attendre 7 jours la venue de Samuel pour offrir un sacrifice et ensuite partir à la guerre. Et il se trouve qu'en fait, Samuel, pour une raison ou pour une autre, est arrivé en retard. Et du coup, ce qu'a fait Saül, il a offert lui-même ce sacrifice. Et les conséquences, on le lit au verset 14, « Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Ça, c'est hyper important de retenir. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Donc, on voit d'abord que son règne est limité et qu'il va y avoir un choix d'un autre roi. Et une autre deuxième erreur que commet Saül, et que nous avons étudié au groupe de maison cette semaine, pour ceux qui ont pu participer, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. Et Saül reçoit l'ordre de Dieu de détruire, d'exterminer tous les Amalécites, ce peuple qui s'était opposé à Moïse et aux Israélites lors de leur entrée dans la terre promise. Et la consigne de Dieu, et du coup que Samuel avait transmise au roi Saül, c'était vraiment d'exterminer tous les Amalécites. Et qu'est-ce qu'a fait Saül ? Effectivement, il a détruit les Amalécites, sauf leur roi. On peut se poser la question, pourquoi pas le roi, alors que c'est un peu le premier, normalement, qui devrait être visé. Et tout le bétail, tout le bon bétail qu'il a gardé, en disant, en fait, ça, je vais le garder pour en faire des sacrifices pour Dieu. Et encore, ça, c'est ce qu'il disait. Donc, finalement, on ne sait pas trop dans son cœur si c'était vraiment sincère. La conséquence, versets 22-23 de 1 Samuel 15, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Donc on voit que Saül a rejeté la parole de Dieu et en retour, Dieu rejette Saül. Donc ce sont deux erreurs qu'a commises le roi Saül et on voit maintenant qu'il est rejeté par Dieu. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer ? Qui sera le prochain roi et comment va se faire cette transition entre ces deux rois. Et le récit d'aujourd'hui, donc que Eric vient de lire, aura pour but de répondre à cette question. Et nous allons voir ensemble que le message central, c'est que l'onction de David annonce l'onction de Christ qui va transformer notre vie. l'onction de David annonce l'onction de Christ qui va transformer notre vie. Et on va voir ça en trois parties. Donc, première partie dans laquelle on va voir que Samuel est en mission pour oindre le futur roi. Ensuite, nous verrons, deuxièmement, que David est le futur roi qui reçoit l'Esprit de Dieu. Et enfin, nous verrons que David apaise Saül, le roi qui perd l'Esprit de Dieu, verset 14 à verset 23. Donc, tout d'abord, Samuel en mission pour oindre le futur roi. Dans 1 Samuel 15, 35, donc quelques versets avant 1 Samuel 16, on voit que Samuel, une fois qu'il a annoncé la destitution du roi Saül, rentre chez lui, à Rama. Il ne va plus voir Saül et il pleure. Il pleure parce qu'il sait que Saül a été rejeté par Dieu et que ce n'est qu'une question de temps pour que cela arrive vraiment. Parce qu'en fait, ça, c'est une annonce qui a été faite, une annonce prophétique, mais ça n'a pas encore eu lieu dans les faits. Et dans le verset 1, Dieu reprend Samuel, on l'a lu tout à l'heure, « Quand arrêteras-tu de pleurer sur le compte de Saül ? Sache que je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que Dieu, il interpelle Saül à ce sujet, Samuel, à ce sujet ? Parce que Samuel, le prophète Samuel, connaissait finalement les dispositions de Dieu à l'égard de Saül. Il lui a dit « je l'ai rejeté » et c'est même lui qui a dû le dire lui-même à Saül. Eh bien, je pense qu'il a... Dieu a posé cette question et a ordonné à Samuel d'arrêter de pleurer pour trois raisons. La première, c'est que je crois qu'avant tout, Dieu voulait que le prophète Samuel ne regarde pas à Saül et qu'il était en tant que roi, mais qu'il regardait à Dieu lui-même. Et ça, c'est à voir avec la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il soit choisi parmi la tribu de Benjamin pour être un roi. Et de la même façon, parce qu'il a péché, ce n'était que la justice de Dieu qui s'exerçait sur lui et le fait qu'il soit destitué. Ce n'était que justice. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que Dieu voulait aussi lui rappeler que son deuil ne devait pas durer aussi longtemps. Dieu ne lui dit pas, il ne faut pas que tu pleures. Il lui dit, quand arrêteras-tu de pleurer ? Dans le sens que peut-être, probablement, Samuel allait encore pleurer plus, quoi, si Dieu n'allait pas le stopper. Et Dieu n'est pas contre le deuil. En plus, Dieu donne un temps de grâce parce qu'il a annoncé que le roi Saül allait être destitué. Il va se passer plusieurs années en fait, avant que cela n'arrive pour de vrai. Et enfin, on peut voir ça dans Ecclésiaste 3, verset 4, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. » Troisième raison, c'est que Dieu l'appelle à une nouvelle mission. Oindre le nouveau roi, le fils d'Isaïe, pas confondre avec le prophète Ésaïe, hein, qui n'a rien à voir, à Bethléem. Et là, on voit, je pense, la sensibilité de Dieu. On voit qu'il a laissé Samuel faire son deuil. Plutôt que l'envoyer tout de suite en mission, il l'a laissé faire son deuil et ensuite il l'envoie en mission. Cette mission, c'est quoi ? C'est de oindre d'huile, verser de l'huile sur le futur roi qui est un des fils d'Isaïe à Bethléem. Et je rappelle ce que c'est l'onction, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, l'onction, dans l'Ancien Testament, ça avait pour rôle d'officialiser le choix du futur roi d'Israël. Et aussi pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans le texte. C'est que l'onction est associée toujours à la notion de recevoir l'Esprit. Alors, est-ce que Samuel il répond tout de suite « Ok, c'est bon, je pars ?» Eh bien non, au verset 2, on voit que Samuel est encore rempli de doutes. Il en fait part à Dieu. Il se dit « Mais attends, si je me rends à Bethléem, mais c'est sûr que Saül, il va l'apprendre. Et c'est sûr qu'il va me faire tuer. » Et moi, ça me fait penser à un autre prophète, un grand prophète, aussi dans l'Ancien Testament. Et quand Dieu l'a appelé à libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, eh bien, il a aussi émis des doutes. En fait, il a émis 5 doutes que j'ai résumés, hein, parce que c'est la première question, le premier doute qu'il a posé, c'était « Qui suis-je ?» Deuxième doute, c'était « Qui est Dieu ?» Troisièmement, « Ils ne me croiront pas. » « Je ne sais pas parler. » Ce à quoi Dieu lui répond, mais qui a fait ta bouche ? Donc, je crois que c'est pas mal. Et envoie quelqu'un d'autre. Et je me dis, peut-être, c'est un peu pareil pour nous, quand Dieu veut nous envoyer en mission. Et notre mission principale, c'est quoi en tant que chrétien ? Eh bien, c'est de faire des nations des disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est de faire des nations des disciples. Et ça commence par notre famille. Ça commence par nos proches. Mais si nous restons sur nos freins, comme « qui suis-je » ou « qui est Dieu » ou « ils ne croiront pas » ou « je ne sais pas parler » ou « envoie quelqu'un d'autre », eh bien, en fait, quelque part, on risque de s'opposer à la volonté de Dieu. On risque de s'opposer à la souveraineté de Dieu. J'ai conscience que ce que je dis, ce n'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose que je vis aussi, mais je crois vraiment que ce texte nous pousse à nous challenger et à nous faire dire des... En tout cas, à me faire dire des choses qui plairont pas forcément, mais qui touchent aussi les cœurs, pour que Dieu nous transforme. Et c'est ça vraiment le message de la Bible, c'est qu'il est là pour nous transformer, transformer notre cœur. Et toujours, en fait, au verset 2, au verset 3, donc Dieu a tout prévu. Et voici, quelque part, l'alibi de Samuel. Il va prendre une génisse. Pour ceux qui se posent la question, la génisse, c'est la vache qui n'a pas encore eu d'enfant, donc qui n'a pas eu encore de veau. Et il va prendre une génisse et il va l'offrir avec Isaïe, un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu précise lui-même à Samuel ce qu'il va dire. Donc, de la même façon que Dieu a guidé Moïse pour savoir qu'est-ce qu'il devait dire au peuple israélite, il va lui montrer lui-même qui est le futur roi qu'il va oindre. Quelque part, en fait, quand Dieu a un plan, il prévoit tout en avance. Dieu équipe celui qu'il envoie. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seul, mais il est avec nous. Malgré ces doutes initiaux, au verset 4, Samuel décide d'obéir à Dieu. Et là, on voit vraiment un contraste entre Saül, le roi Saül, à qui Dieu a dit l'obéissance. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je l'ai lu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et en fait, Samuel s'applique à lui-même ce passage, cette exhortation. Il est un formidable modèle. C'est pas étonnant, en fait. Samuel, il était obéissant à la voix de Dieu depuis son enfance. Il a toujours été fidèle à Dieu, même dans la difficulté. Pour nous, c'est vraiment un modèle. Et son obéissance montre aussi qu'il s'est ressaisi. Ok, il y a eu la perte de deuil. Ok, c'est normal. Mais maintenant, il est prêt à accomplir la mission. Aller oindre le futur roi. Et au verset 4, on a les anciens de Bethléem qui ont une mauvaise intuition quelque part. Ils pressentent que ce n'est pas trop normal. Pourquoi est-ce que le prophète Samuel viendrait dans leur petite ville de Bethléem? Est-ce que c'est pour annoncer un terrible jugement? Ils se demandent si sa venue annonce quelque chose d'heureux. Et probablement que la dernière fois qu'ils ont vu le prophète Samuel, c'était dans 1 Samuel chapitre 12. En fait, c'est quand le peuple a demandé un roi. Quand le peuple a demandé un roi, eh bien, Samuel a dit « Ok, je vous donne un roi. Enfin, le Seigneur vous donne un roi. Mais attention, vous ne devrez pas vous détourner de Dieu, sinon il va y avoir des malédictions derrière. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi du tonnerre et de la pluie qui est tombé à ce moment-là. Et quelque part, la question des anciens, elle est prophétique parce que la venue du prophète Samuel à Bethléem annonce en réalité quelque chose d'heureux, c'est-à-dire le choix d'un nouveau roi, de qui découlerait la descendance de la promesse qui a été faite depuis Genèse 3, verset 15, celle qui écrasera la tête de Satan, c'est-à-dire Jésus. Bon, bien entendu, au verset 5, ce n'est pas vraiment ce que va dire Samuel, hein. Il laisse rien transparaître, il est vraiment poker face, c'est-à-dire que fait, non, je viens offrir un sacrifice et venez, il n'y a pas de souci, venez avec moi. Et il les invite à rejoindre pour le sacrifice. Et ça, c'était vraiment l'argument parfait parce que en ce temps-là, vous vous souvenez, le temps des juges, en fait, Dieu était assez silencieux. Mais c'est avec Samuel que Dieu a recommencé à vraiment échanger avec le peuple juif. Et si Samuel, qui est vraiment le messager de Dieu, dit quelque chose, bah, il pouvait que lui faire confiance. Donc si Samuel disait bah, « on va offrir un sacrifice », il ne pouvait que lui faire confiance et que le croire. Donc voilà, ça c'est premièrement Samuel en mission pour oindre le futur roi. Nous allons voir maintenant que David est le futur roi qui reçoit l'Esprit de Dieu. Lorsque Samuel pénètre dans la maison d'Isaïe, nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu par rapport à la grande histoire de Dieu. Et je vous invite à lire ensemble Ruth, chapitre 4, verset 13 et verset 17. Donc c'est la fin de Ruth. Pour ceux qui se souviennent, on avait prêché sur Ruth pendant quelques semaines, il y a quelques semaines. Donc Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alors, si nous avons déjà lu Ruth, nous savons déjà qu'en fin de compte, ce sera David, hein, le futur roi. Le suspense, et voilà. En effet, ce qu'on vient de lire, le texte de Ruth insiste sur le fait que Isaïe, le père de David. Sauf que on sait que David, ils sont 8 frères. Donc pourquoi insister sur le fait qu'il était le père de David? Bien, voilà, il y a forcément une raison. Mais admettons que nous ne savons pas tout cela et mettons-nous à la place de Samuel, parce que Samuel ne savait pas tout ça. Tout ce qu'on voit maintenant, ou même les lecteurs de l'Ancien Testament, quand ils lisaient, ils savaient que voilà, c'était forcément David. Mais mettons-nous à la place de Samuel. Et quand on lit le verset 6, bien, probablement que ça devait être le fils aîné, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Voilà, ça, c'est forcément, enfin, ça saute aux yeux, quoi. Voilà, comme dirait l'expression française. Mais là, on a ce verset hyper central dans le texte, qui est le verset 7. Ce verset 7 que souvent on sort un peu, parfois un peu hors du contexte, mais c'est toujours intéressant justement aujourd'hui de voir dans le contexte qu'est-ce qu'il veut dire. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là où Samuel voyait avec ses yeux physiques que Eliab était l'aîné, qui était le plus grand, le plus costaud, le plus beau gosse peut-être, eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde au cœur. Et il semble que le cœur de Eliab, le fils aîné d'Isaïe, n'était pas vraiment conforme à ce que Dieu voulait. Alors attention, quand il dit « je l'ai rejeté », ça veut dire qu'il n'est pas celui qui l'a choisi, hein, Eliab. C'est une petite parenthèse, mais ce n'est pas le même sens que Saül qui a été rejeté par Dieu. Voilà. Dieu cherchait un homme selon le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Samuel, quand il a annoncé à Saül que Dieu allait se chercher un autre homme selon son cœur, ben voilà, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais là, on ne voit pas encore qui est cet homme selon le cœur de Dieu. Et ça me fait penser à nous. Est-ce que parfois, nous ne sommes pas un peu comme le prophète Samuel, à regarder aux apparences extérieures plutôt que regarder au cœur? Par exemple, quand même, pas obligé de prendre une situation à l'église, mais même une situation quand vous êtes au travail ou quand vous êtes dans un groupe de personnes, et des fois, vous entrez dans une pièce, vous ne connaissez personne, mais vous sentez qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui n'ont pas l'air très commodes. Mais en fait, si vous faites un peu plus d'effort d'aller leur parler, vous allez voir que finalement, les préjugés tombent, en fait. Ces personnes-là sont beaucoup plus sympathiques que ce que vous pensiez. Et si je ramène cette situation par rapport à l'église, ben peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui est assez discret dans l'église, il ne paye pas de mine comme ça de l'extérieur, mais peut-être que cette personne-là, ce frère ou cette sœur, elle a un don que Dieu lui a donné et qu'elle est beaucoup plus importante que ce que nous croyons. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la parole, en fait. Parce que Dieu a disposé chaque don dans l'église et nous formons tous un seul et même corps. Une autre façon aussi de comprendre ce passage pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu ne regarde pas à notre apparence. C'est-à-dire comment Dieu nous voit. Dieu ne regarde pas à notre apparence et à qui nous prétendons être, au masque peut-être que nous portons. Et c'est ce que prône finalement la société. La société nous prône l'apparence physique. Regardez les comptes Instagram et le nombre de vues qu'on peut avoir. Avant, moi, c'était Facebook à mon époque, mais maintenant, je crois que c'est Instagram. Et encore, il paraît qu'il y a des nouvelles applications. L'apparence physique qui est prônée, ou les performances sportives, quand on dit « Ah, il allait jusqu'au bout, il a couru le 100 mètres en X secondes », voilà, on insiste sur les performances extérieures, on prône les performances. Ou même au travail, on va prôner des compétences. « Ah, cette personne-là est très intelligente » ou « Cette personne-là, elle a vraiment des capacités », etc. Mais dans notre monde, la place du cœur est très peu importante. Or, dans ce texte, Dieu dit qu'il regarde au cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est une partie de notre être sur laquelle on devrait veiller. Ça me fait penser aussi au Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu regarde à notre cœur. Mais comment est-ce qu'on peut progresser dans ce domaine-là? Eh bien, ça veut dire passer du temps. Passer du temps avec le Seigneur, dans l'intimité, dans notre relation, dans notre culte personnel. Le faire tous les jours. Sans exception. C'est bien plus important que tous les ministères que nous avons, les bonnes actions que nous faisons. C'est de notre relation avec Dieu que vont découler les bonnes actions. C'est de notre relation avec Dieu que nous allons faire les bonnes actions pour lui, les services pour lui et pour les autres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce va générer en nous cet amour pour les autres pour pouvoir faire des actions pour lui, pour eux. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui sans qu'il a besoin de vraiment passer un vrai tête-à-tête avec Dieu, un vrai tête-à-tête avec Dieu très prochainement? Moi, en tout cas, le premier, je pense que j'en ai besoin aussi. Bref, revenons à notre récit. Loin de se décourager, Samuel passe au second fils d'Isaïe, Aminadab. Donc là, on a une liste de prénoms. Et ce n'est pas non plus le bon. Et puis vient le troisième fils, Shammah. Et ce n'est pas non plus celui qui est choisi par Dieu. puis viennent le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. C'est toujours pas le bon. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Samuel à Isaïe au verset 10, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et là, on peut peut-être faire un petit arrêt sur image, vous voyez, comme si on regardait un DVD ou un film sur Netflix, une série, on appuie sur pause. Et essayons de nous mettre un peu à la place de Samuel. Ça devait être un peu décourageant, quelque part. Il voit passer les enfants d'Isaïe, les fils d'Isaïe un par un, c'est toujours pas le bon, c'est toujours pas le bon, c'est toujours pas le bon. Mais peut-être qu'à un moment donné, il a dû douter quelque part même de son appel, de sa mission. Dieu l'envoie, mais c'est bizarre quand même, c'est pas lui, c'est pas lui. Bon, Samuel, il persévère jusqu'au bout, hein, il demande à Isaïe, mais il y a vraiment tous tes fils qui sont là, verset 11. Et Isaïe répond, effectivement, il en reste encore un plus jeune, qui garde les brebis. J'imagine que Samuel, c'est pas écrit, mais devait pousser un petit ouf de soulagement sur... Enfin voilà, il est humain quand même. Ouf, la mission n'est pas un échec. Et du coup, il demande à Isaïe d'aller directement le chercher. Et on voit que ce jeune homme arrive, il est roux, il a des beaux yeux, il a une belle apparence. Et selon plusieurs commentateurs, à ce moment-là, donc c'est David, hein, il devait avoir 15 ans environ. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, Dieu reproche à Samuel de s'attarder sur la belle apparence d'Eliab, l'aîné des fils d'Isaïe, mais Dieu choisit David qui a une belle apparence. Et quelque part, ça, c'est aussi pour nous montrer que Dieu ne néglige pas l'apparence, mais il dit que ce n'est pas le plus important. On peut très bien avoir une super apparence, mais avoir un mauvais cœur. Mais on peut avoir un bon cœur et aussi avoir une belle apparence. Donc, Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons beaux aussi. Quoi, voilà. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Une deuxième remarque aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que Dieu va privilégier le fils cadet ou le fils Benjamin de la famille. Souvenez-vous de Jacob et Ésaü. Jacob qui a été préféré, duquel découle finalement Israël et les 12 tribus. Hein. Rappelez-vous aussi de Manassé par rapport à Éphraïm. Donc Manassé qui était le fils de Joseph, qui a été favorisé par son grand-père, du coup, à Jacob, quand il les a bénis. Et on peut même regarder Pierre par rapport à André. André qui était le grand frère, mais Pierre qui était plus proche du Seigneur Jésus. Et donc voilà, on a Samuel qui oint d'huile David devant ses frères. Et je rappelle encore une fois, l'onction, le rôle, c'est de désigner un roi et pour qu'il puisse aussi recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que dit le verset 13. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. David est oint et à partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Et là, je m'arrête un instant sur cette notion de l'Esprit de l'Éternel qui vient sur David. Et nous allons voir notamment qu'il y a une différence très, très, très importante, et c'est vraiment très important pour aujourd'hui de retenir cela. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire aujourd'hui, le Saint-Esprit vient sur le croyant en Jésus. On croit en Jésus, le croyant... Enfin, je me convertis dans le sens où je donne ma vie à Jésus, je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je deviens une nouvelle créature, il y a une nouvelle naissance en moi, et le Saint-Esprit, je le reçois, il vient établir sa demeure en moi, et ça c'est pour toujours, pour toujours. On voit ça notamment dans Jean 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Donc un bail sans fin, quoi. Et lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous transforme. Il demeure en nous jusqu'à notre mort physique. Et bien sûr, il peut arriver que nous l'attristions, que nous oublions qu'il soit là. Mais le Saint-Esprit n'en reste pas moins présent. Il est un sceau de Dieu à nos côtés. Il vit en nous. Il ne peut pas nous être enlevé. Parce que sans Saint-Esprit, on ne serait plus ces nouvelles créatures. Donc on a forcément Saint-Esprit quand on est croyant, quand on est chrétien. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait que Jésus est mort sur la croix, grâce au fait qu'il est ressuscité, qu'il y ait eu l'ascension, qu'il soit monté auprès du Père, et qu'il y ait eu la Pentecôte pour que le Saint-Esprit soit déversé sur les disciples. Et on voit que, effectivement, même Jésus disait aux disciples que c'était plus avantageux qu'il s'en aille, qu'il monte, qu'il y ait l'ascension, pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. On voit ça dans Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Dans le Nouveau Testament, on voit que le Saint-Esprit, nous l'avons pour toujours. Dans l'Ancien Testament, c'est différent. Le Saint-Esprit ne venait que sur les hommes et les femmes, ne venait pas sur les hommes et les femmes de la même manière que dans le Nouveau Testament. Les personnes étaient revêtues du Saint-Esprit pendant un temps donné pour une tâche spécifique ou pour une fonction particulière. Le Saint-Esprit venait sur les personnes pour un temps donné, pour une tâche spécifique ou une fonction particulière. Et là, j'ai plusieurs exemples que je vais vous passer. Dans Exode, donc on le voit surtout en rouge, la partie intéressante, c'est 31, verset 1 à 5. « L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Nombre 11, verset 25. « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent. Mais ce ne fut que momentané. » Deutéronome 34, 9. « Josué, fils de Noun, était rempli d'esprit, de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Et enfin, dernier passage, Juges 3, 9 à 10. « Les Israélites crièrent à l'Éternel. L'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Otniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. » Donc ça, Juges 3, on l'a étudié normalement en groupe de maison pour ceux qui ont pu participer. Et encore, il y a plein d'autres passages. Il y a Gédéon, Jephthé, Samson, j'en ai pas parlé. Il y a aussi Saül et David. Voilà. Là, on a David qui reçoit le Saint-Esprit à ce moment particulier dans l'histoire de la Bible. Donc nous voyons, bien que Dieu a équipé dans l'Ancien Testament des artisans, on a parlé de Betsalel pour construire le tabernacle, des guerriers, notamment les juges, et également des rois, afin qu'ils aient les capacités pour leur mission spécifique, les capacités qui viennent de Dieu pour des missions spécifiques. Et là, David, le roi David, a reçu cette capacité à régner. Et ça, cela montre qu'en Israël, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour régner. Le roi a besoin de l'Esprit de Dieu pour régner. Et c'était déjà le cas de Saül. Il avait reçu aussi l'Esprit de Dieu. Si je reviens sur le parallèle avec le Nouveau Testament, il n'est pas possible pour nous chrétiens de nous passer du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit dès lors que nous mettons notre foi en Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, seulement quelques privilégiés dont on a parlé recevaient le Saint-Esprit. Alors que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons tous ce privilège d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir accès au lieu très saint, d'avoir accès à la présence de Dieu. Et pour aller plus loin, je vous invite à lire avec moi Ésaïe 11, versets 1 à 2. Et je vous invite à lire tous ensemble à voix haute. Puis, un rameau. Donc l'onction de David, en fait, elle préfigure, elle annonce l'onction de Christ. C'est hyper important aussi, c'est la clé du message. L'onction de David préfigure l'onction de Christ. David est le roi qui a été voulu par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a reçu cet esprit pour pouvoir régner dans son royaume terrestre. Et de la même façon, Jésus-Christ est ce roi éternel qui a été voulu par Dieu pour régner dans les lieux célestes, dans son royaume céleste. Ce n'est pas un royaume terrestre. Et c'est ça que les Juifs n'avaient pas compris au moment où Jésus est venu. Ils pensaient dans leur idée que le Messie devait être quelqu'un qui allait asseoir un royaume terrestre et chasser les Romains, un peu comme les Zélotes le pensaient. Et en fait, non, Jésus était venu en disant que son royaume n'était pas de ce monde, mais son royaume, c'était un royaume céleste. Ainsi, Christ, selon ce passage, est entièrement rempli du Saint-Esprit et rien ne fera obstacle à son règne. Alors, comment ça peut nous parler aujourd'hui? Eh bien, il a fallu que Jésus soit entièrement rempli du Saint-Esprit, comme on vient de le lire, pour faire ses œuvres sur la terre. Et est-ce que nous, parfois, ça nous arrive de penser que nous pouvons nous passer du Saint-Esprit pour notre propre vie ou pour faire des œuvres de Dieu? Mais en fait, ça serait que pure folie. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit quelque part pour faire toutes ses œuvres, à combien plus forte raison, en tant que chrétien, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit? Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Heureusement, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qu'il demande. Et on peut voir ça dans Luc, chapitre 11, verset 13. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Donc c'est encore possible aujourd'hui de demander à être rempli de l'Esprit-Saint. On voit aussi dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc n'oublions donc pas que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu, encore une fois, que dans l'Ancien Testament, les personnes ont chacune reçu le Saint-Esprit pour un temps donné, pour des tâches spécifiques. Elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit de la même manière que dans le Nouveau Testament. En effet, Jésus n'était pas encore venu sur la terre, n'était pas encore mort sur les péchés, n'était pas encore ressuscité, n'était pas encore monté au ciel avec l'ascension. Il n'y avait pas encore eu la Pentecôte que nous allons fêter dans quelques jours. Et ça, c'est aussi valable pour David, mais c'est aussi valable pour le roi Saül. Et ce que nous allons voir dans une troisième partie, David apaise Saül, le roi qui perd l'Esprit de Dieu. Dans le cas de Saül, nous apprenons que l'Esprit de Dieu vient sur lui dans deux passages. 1 Samuel, chapitre 10, verset 9. « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. » 1 Samuel, deuxième passage, 11, verset 5 à 6. À ce moment, Saül revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela et sa colère s'enflamma fortement. Nous apprenons donc que Saül reçoit le Saint-Esprit à deux moments. Ainsi, lorsqu'il le reçoit, on voit bien que c'est pour un temps donné. Et justement, c'est ce qui arrive au verset 14. Le temps donné, il s'achève. L'Esprit de l'Éternel se retire de Saül. Ça veut dire que Saül n'a plus l'Esprit de Dieu qui va l'accompagner pour sa royauté, pour permettre de gouverner. Et la conséquence, on va le voir par la suite, c'est qu'il va enchaîner des défaites face aux Philistins. Alors que David, lui, au contraire, il reçoit l'Esprit et il va enchaîner des victoires. Mais pire que cela, Saül est tourmenté par un mauvais esprit qui est envoyé par Dieu. Et déjà, ça peut paraître bizarre parce que c'est écrit que Dieu envoie quelque chose de mauvais, un mauvais esprit. Et on parle d'un mauvais esprit, on peut utiliser le mot démon aussi, hein. Enfin, faut pas non plus, voilà, on peut l'appeler aussi un démon. Mais ne soyons pas si surpris que ça parce que Dieu est souverain. C'est vraiment un attribut de Dieu hyper important à retenir. Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il est au contrôle de toute chose. Et il permet que certains démons agissent dans le périmètre que Dieu va leur donner. Ça ne veut pas dire que Dieu envoie le démon, c'est-à-dire que Dieu permet à ce que ça se passe comme ça. Et le mauvais esprit aussi, c'est pour montrer que si l'esprit de l'Éternel quitte Saül, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour qu'il y ait un mauvais esprit qui rentre dedans quelque part. Et ça montre que vraiment Dieu n'est plus avec Saül. Et ici, Dieu se sert quelque part du démon pour arriver à ses fins. C'était pour tourmenter Saül, et quelque part c'était un signe de jugement par rapport à sa désobéissance. Mais ce qui est beau, quand même, dans tout cela, c'est que Dieu donne à Saül un moyen de grâce temporaire. Il éveille l'intelligence d'un de ses serviteurs, et on va lire dans verset 15, « Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente, que notre Seigneur parle. » Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Donc verset 17, bien sûr. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Saül va accepter leur proposition. Et du coup, il leur demande de trouver cet homme qui joue si bien. Et la suite, on va la lire ensemble aussi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qui se chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe « Je t'en prie, laisse David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de ce texte, ce qui est intéressant, c'est de noter que David, il est connu comme étant fort, vaillant. On apprend que c'est un guerrier. Alors que juste avant, on apprend qu'il garde des brebis. Donc on peut se poser la question, ça paraît bizarre. En fait, c'est dû au fait que ce récit n'est pas chronologique. Et les versets 14 à 23 de 1 Samuel 16 se situent chronologiquement après 1 Samuel 17. Après le combat contre Goliath, c'est comme ça qu'ils savent que c'est un bon guerrier et que Dieu est avec lui, parce qu'effectivement, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui pouvait l'accompagner pour battre Goliath. Et c'est pour ça que, du coup, il est identifié comme étant fort, vaillant et guerrier. Voilà. Et ici, là, le but de l'auteur pour ce chapitre, c'était vraiment de mettre l'emphase sur le fait que, d'un côté, on a David qui reçoit l'Esprit et d'autre côté, Saül ne l'a plus. C'est vraiment dans ce but-là. Okay ? Donc là, si on revient au texte, donc suite à son onction et suite à son combat contre Goliath qui a lieu dans le chapitre 17, mais que chronologiquement est avant, David est loin de Dieu, donc le roi qui est oint par Dieu, qui va être amené à régner. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les serviteurs eux-mêmes reconnaissent que l'Éternel est avec David, au verset 18, et David, une fois qu'il est oint par Dieu, il reçoit l'Esprit de Dieu. Voilà. Et je me suis toujours dit, en lisant ce texte, je ne sais pas si on l'a eu plein de fois ce texte, enfin, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on le découvre, je pense. Et quand je le lisais, je me disais, il joue de la harpe et c'est ça qui fait chasser l'esprit mauvais. Et c'est bien la musique, en fait, ça permet de chasser les esprits et tout. Et en fait, en préparant ce texte, je me suis rendu compte que non, c'est dû au fait que David était revêtu du Saint-Esprit et quand il a joué de la musique, c'est ça, en fait, qui a chassé l'esprit, qui a pu apaiser Paul. Si une autre personne jouait cette musique, je suis quasiment sûr que ça n'aurait pas marché, en fait. C'est pas la musique en tant que telle qui a chassé l'esprit mauvais, le démon. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a chassé l'esprit mauvais à travers la musique qui est sortie de l'harpe de David. Pourquoi ? Parce que David était rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose en lisant ce texte. Et on va voir par la suite, dans la suite de l'histoire de David, dans 2 Samuel notamment, et dans 1 Samuel, David va progresser avec l'aide du Saint-Esprit. D'abord, il est capable de chasser un démon, mais il va aussi gagner des batailles contre les Philistins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saül va envoyer David. Il voit bien que quand lui, il y va lui-même, c'est la misère. Donc quand il envoie David, David, il gagne en fait. Comment est-ce que ça peut nous parler ? Eh bien, de la même façon qu'il y a un combat spirituel entre David et les démons, à travers notamment cette musique qu'il joue, il y a aussi un combat spirituel entre Jésus-Christ et les démons. Et ça, on le voit directement. Dès que Jésus commence son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse des démons. Voilà. Et il va jusqu'à vaincre Satan et les démons pour toujours à la croix et en ressuscitant. Et si nous appartenons à Jésus-Christ, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme le dit Romains 8, 37. Et c'est vrai que parfois, on voit vraiment le mal partout présent dans ce monde. Je sais pas, tout à l'heure, je prenais la voiture et je vois une pancarte, il y avait écrit une application qui faisait l'éloge de fêter le divorce, par exemple. J'ai trouvé ça dingue, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment le mal qui est vraiment partout dans ce monde. Et on voit vraiment le mal présent dans ce monde. Et la Bible nous dit que nous sommes comme des hôtes de passage. Nous sommes de passage sur cette terre et nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Et nous appartenons à un royaume qui est céleste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un contexte qui est très incertain avec la crise du Covid-19, avec cette pandémie. Et peut-être que nous risquons de nous laisser submerger par la peur et malheureusement, de nous engager dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que, par exemple, c'est aux chrétiens de propager des théories complotistes ? Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je crois que non, tout simplement. En tout cas, moi, je dis quelque chose qui ne plaît pas forcément aux gens aujourd'hui, mais voilà. Je crois que non, nous appartenons au royaume céleste. Nous ne sommes pas de ce monde et nous pouvons nous appuyer sur Christ qui a déjà la victoire sur le monde. Donc, on n'a pas à avoir peur en disant c'est parce que c'est peut-être un complot, machin. Bien sûr qu'il y a des gens puissants qui sont dans ce monde, peut-être que voilà, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on n'a pas à avoir peur parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous et nous avons la victoire en Jésus. Et c'est ça le plus important. Et nous pouvons nous appuyer sur Jésus qui a déjà la victoire dans le monde. Nous n'avons rien à craindre. Et je pense qu'au contraire, plus que jamais, notre devoir, c'est de prêcher Christ crucifié afin que d'autres personnes puissent être aussi libérées de cette peur. Et si nous avons le temps et l'énergie de propager des articles qui parlent de conspiration, eh ben, je crois qu'on a tout autant de temps, encore plus, pour partager cette bonne nouvelle. Parce que le monde est en flammes et les gens ne croient pas. Et pas juste le monde dans un sens écologique, ce qui est aussi vrai, mais dans un sens où les gens sont perdus. Et les gens ont besoin du salut en Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui sauve, il n'y a que ce message qui sauve. Et c'est ça la priorité. Si je reviens au texte, la fin de ce chapitre, elle préfigure la suite du récit. D'un côté, on a David qui a le Saint-Esprit. De l'autre côté, on a Saül qui ne l'a plus. Et l'issue ne fait aucun doute. On sait que David va succéder à Saül. Ça va arriver. C'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Mais c'est vrai que quand on s'arrête là, on se dit « Ok, bah, prochain chapitre, c'est bon, David, il va régner. » Mais on sait que ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai lu dans un article de la revue Promesse de 2018, qui a été écrit par Étienne Lermeno, que David, c'était vraiment un modèle de patience parce qu'il a dû attendre 15 ans, entre le moment où il a été oint, ce qu'on vient de voir dans 1 Samuel 16, et le moment où il monte sur le trône dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 11. 15 ans pour monter sur le trône. Et encore, au moment où il monte sur le trône, donc à ses 30 ans, c'est que pour régner sur la partie Juda, la partie du sud. Et à ce moment-là, il règne 7 ans. Et ensuite seulement, il règne pendant 30 ans sur tout Israël. Donc en gros, il a dû attendre 15 ans, plus 7 ans, donc 22 ans d'attente pour être roi de tout Israël. Et on sait que quelque part Dieu l'a préparé hein, dans son caractère, dans la souveraineté de Dieu, il l'a préparé avant d'accéder à ce trône. Il a permis de prendre une bande de 200 personnes, 600 personnes, et leur a enseigné qu'est-ce qu'était la foi en Dieu, et, etc. Et avant de lui-même accéder vraiment au trône. Et ce n'est qu'un exemple. Mais on pourrait faire plein de prédications sur la vie de David, mais voilà, je m'arrête là. Et une dernière application pour nous aujourd'hui, sur cette notion de recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, selon le Nouveau Testament, si nous sommes déjà baptisés, et je crois qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sommes baptisés, c'est que normalement, nous avons reçu le Saint-Esprit pour toujours. Et je dis normalement parce que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus qui sauve. Le baptême, c'est un symbole d'une réalité spirituelle. Et peut-être que certains se sont fait baptiser, peut-être certains qui nous écoutent aussi sur Zoom, se sont fait baptiser à une époque où c'était un peu la mode. On a les frères et sœurs de l'école du dimanche qui sont fait baptiser. Bah, vas-y, je me suis fait baptiser. Ou peut-être à cause de la pression de la famille ou des parents. Mais ce n'est pas le baptême qui va sauver du péché et de la mort éternelle. Seulement la foi en Jésus peut sauver. Seulement la foi en Jésus peut sauver et donner la vie éternelle. Et le baptême vient attester cette réalité à travers cette immersion qu'on fait. Nous étions morts et nous sommes lavés pour être de nouvelles créatures. Et ça, c'est un symbole. Et peut-être que certaines personnes se sont baptisées ou ont cru en Jésus, si j'élargis un peu le spectre, et se sont peut-être éloignées de l'Église. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Je l'ai connu, il s'est fait baptiser, il s'est éloigné de l'Église, je l'ai connu, il croyait en Jésus et il ne vient plus à l'Église. En tout cas, je n'ai plus de ses nouvelles et j'ai l'impression qu'il est vraiment éloigné de Dieu. Eh bien, il y a deux possibilités. Il n'y a que deux. La première, c'est qu'elle s'est éloignée pour un temps, mais qu'elle va finir par revenir. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu l'a pour toujours. Mais c'est notre devoir aussi. D'ailleurs, c'est dans Galates 6, à la fin, où on est exhorté à ramener finalement ceux qui pêchent afin qu'ils reviennent à Dieu. Et ça permet de ramener vraiment une âme qui était à la mort, quoi, si jamais elle n'était pas vraiment dans le Seigneur. Donc ça, c'est la première, c'est vraiment elle s'est éloignée pour un temps, mais elle va finir par revenir. Et c'est aussi notre devoir en tant que chrétien de prier pour ces personnes-là. La deuxième raison, ça peut être qu'elles n'ont jamais vraiment reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à entendre, mais si elle n'a pas vraiment reçu le Saint-Esprit, c'est que ben, c'est logique qu'elle s'est éloignée, en fait, parce que c'était pas vraiment du fruit qui demeurait. Et moi, ça me fait penser à ce dernier passage que je vous partageais dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, versets 20 à 21. « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. » Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Et là, avant de continuer, j'aimerais prier pour deux cas. Le cas où c'est la personne qui s'est éloignée et qu'on prie vraiment pour que cette personne puisse revenir à Dieu. Ou alors le deuxième cas où c'est la personne qui n'avait jamais vraiment connu le Seigneur et que Dieu puisse la toucher. Donc ça, c'est des personnes peut-être qui écoutent dans la salle, qui écoutent sur Zoom, qui l'écoutent en replay. Ou peut-être vous pouvez aussi prier pour des personnes que vous connaissez. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui sont éloignées de Dieu et qui ont connu, hein, qui ont baigné dans l'Église peut-être, mais peut-être qu'elles n'étaient pas vraiment encore sauvées. Et du coup, bah, c'est pour ça que notre intercession aussi est là pour faire la différence. Donc, je vous invite à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui... peut-être sont fait baptiser, qui peut-être sont fait baptiser, mais aujourd'hui que nous ne voyons plus, qu'on ne voyons plus à l'église, on ne voyons plus parmi le troupeau. Et Seigneur, nous te prions pour que ces personnes-là, dans qui tu as déjà mis le Saint-Esprit, Seigneur, elles puissent revenir vraiment vers toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, ce que tu déposes, quand tu déposes ce Saint-Esprit, c'est pour toujours. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses toucher ces personnes, Seigneur. Chaque personne qui a reçu ce Saint-Esprit, mais qui s'est éloignée pour un temps, peut-être par désobéissance, peut-être par peur, peut-être pour d'autres raisons, Seigneur. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans l'Église, peut-être, je ne sais pas, Seigneur, mon Dieu, mais toi, Seigneur, tu sais. Et Seigneur, je te prie que maintenant, tu touches les cœurs, Seigneur. Que maintenant, tu touches les cœurs, afin que ces personnes puissent revenir vraiment à toi, Seigneur. Qu'ils puissent revenir à toi, parce que tu les attends avec les bras grands ouverts. Et tu veux vraiment leur montrer que la porte est ouverte. Seigneur, je te prie maintenant pour les deuxièmes types de personnes. Ces personnes qui, peut-être, ont côtoyé l'Église, peut-être même qu'elles sont fait baptiser, mais qui n'avaient pas vraiment la foi, Seigneur, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes des occasions pour peut-être leur parler à nouveau, Seigneur, pour peut-être... pouvoir passer du temps avec ces personnes-là, Seigneur. Ces personnes-là sont perdues, Seigneur, parce qu'elles ne croient pas en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, que ton Saint-Esprit touche les cœurs maintenant, Seigneur, afin qu'elles reçoivent ce Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'elles attestent, qu'elles confessent qu'elles sont pécheurs, qu'elles ont besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur, qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour les sauver, Seigneur. Nous te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer. Donc, nous venons de voir que l'onction de David annonce l'onction de Christ qui va transformer notre vie. Et nous avons vu notamment que Samuel était en mission pour rendre ce futur roi qui était David, qui a reçu l'Esprit de Dieu, et que ce futur roi a aussi apaisé Saül, le roi qui a perdu l'Esprit de Dieu. Et pour terminer, je vous invite à lire ensemble Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. Et je vais le lire. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur mon Dieu, merci encore parce que Jésus-Christ est ce roi qui a été envoyé sur la terre pour nous donner la vie, pour gouverner un royaume céleste auquel nous appartenons. Chaque église que tu as placé sur cette terre, Seigneur. Nous formons ensemble l'Église universelle que tu as sauvée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie pour te remercier aussi parce que Nous venons de dire aussi que tu ne juges pas sur l'apparence, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu regardes au travers des cœurs, Seigneur. Ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne jusqu'à séparer jointure et moelle, Seigneur. Âme et esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est là pour éclairer, Seigneur. Elle est là pour nous ramener à toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci encore parce que tu nous appelles à ne pas regarder au cœur, pas regarder à l'apparence, mais à regarder au cœur. Parce que de la même façon, Seigneur, tu n'as pas regardé à notre apparence, mais tu regardais à notre cœur qui était tellement mauvais lorsque tu es venu nous chercher dans notre péché, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette vie, Seigneur, et que nous l'avons en abondance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te prie encore qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous raviver cette flamme, Seigneur, que tu puisses encore nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions encore te servir toi, servir notre prochain, servir ton Église, Seigneur, qui est belle, Seigneur. Seigneur, purifie-nous encore, Seigneur, purifie-nous encore aujourd'hui, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté et avancer dans le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Merci encore parce que ce chemin, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen.